Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9NR3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Divorce à la mérovingienne est un roman historique » de Marie-Hélène Texier, inscrit dans son univers de prédilection, le Haut Moyen-Âge mérovingien. À partir d'un cadre politique et religieux souvent méconnu du grand public, le livre s'appuie sur la tension entre pouvoir royal, ambition ecclésiastique et logique d'alliance ou de rupture propre à la société franque. Comme d'autres titres de l'autrice, il semble privilégier une reconstitution historique rigoureuse et une narration portée par les usages, les rapports de force et les choix stratégiques des élites de l'époque. Le titre annonce d'ailleurs un angle original, le divorce, non comme sujet moderne, mais comme révélateur des contraintes matrimoniales, patrimoniales et dynastiques dans une monarchie encore instable. Le roman s'adresse donc aux lecteurs attirés par la fiction historique documentée, les intrigues de cour et l'exploration des structures sociales du VIe siècle. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le divorce comme révélateur des règles matrimoniales chez les mérovingiens. Le titre indique que le roman prend pour point d'entrée une séparation conjugale dans un contexte où le mariage n'est pas seulement une affaire privée. Chez les mérovingiens, l'union relie des familles, des biens, des territoires et des fidélités politiques. Traiter le divorce dans ce cadre permet d'éclairer la manière dont une rupture peut devenir un acte de pouvoir, ou au contraire une menace pour l'équilibre d'un lignage. L'intérêt du sujet réside moins dans le geste lui-même que dans ces séquences remises en cause des alliances, gestion des héritages, réputation des époux, place des enfants et intervention éventuelle des autorités religieuses. Le roman peut ainsi montrer comment une situation intime se transforme en enjeu public. Ce déplacement est particulièrement pertinent dans un univers où la stabilité dynastique est fragile et où les unions servent souvent d'instruments de gouvernance. Le thème offre donc une lecture concrète des rapports entre droit coutumier, stratégie familiale et ordre politique. Deuxièmement, une plongée dans le monde franc du VIe siècle et ses rapports de force, l'arrière-plan mérovingien place l'action dans un monde où le pouvoir est fragmenté et constamment négocié. Le VIe siècle franc est marqué par les rivalités entre souverains, les recompositions territoriales et le rôle décisif des entourages aristocratiques. Un roman situé dans ce cadre peut faire apparaître la dimension instable du Regnum Francorum, où les décisions privées ont souvent des effets collectifs. Les alliances matrimoniales, les successions et les ruptures ne relèvent pas de la simple chronique familiale. Elles influencent la conservation des royaumes, la circulation des appuis et l'équilibre entre branches rivales. Ce cadre historique donne au récit une profondeur politique, car il met en relation la vie domestique et la construction d'une autorité encore incomplètement centralisée. L'intérêt du roman tient alors à sa capacité de rendre lisible un moment fondateur de l'histoire franque, sans réduire cette période à une suite de dates. Il montre comment le pouvoir se fabrique à travers les liens de parenté autant qu'à travers les armes. Troisièmement, le rôle structurant de l'Église dans les affaires privées et dynastiques. Dans un récit mérovingien, l'Église ne peut pas être un décor secondaire, car elle intervient directement dans la définition du mariage, de la légitimité et de la morale publique. Le traitement d'un divorce dans cette période suppose donc un dialogue permanent entre normes religieuses et intérêts politiques. Les clercs peuvent soutenir, condamner, encadrer ou instrumentaliser les ruptures conjugales selon les circonstances, ce qui fait d'eux des acteurs à part entière du jeu social. Le roman peut alors mettre en lumière la manière dont le discours religieux structure les comportements. Sans effacer les calculs des princes et des familles, cette tension entre idéal chrétien et pratique du pouvoir est l'un des ressorts les plus féconds du roman historique médiéval. Elle permet d'analyser comment une institution en expansion tente d'imposer ses règles à une aristocratie encore très attachée aux logiques de prestige, de descendance et d'alliance. Le livre prend ainsi une dimension critique en montrant que la religion n'agit pas seulement comme contrainte morale, mais aussi comme force politique. Quatrièmement, une écriture historique qui privilégie la clarté du contexte sur l'effet d'exotisme. Les indices disponibles sur l'œuvre de Marie-Hélène Texier suggèrent une pratique du roman historique fondée sur la précision du cadre et la lisibilité des enjeux. Dans ce type de livre, l'objectif net n'est pas seulement de recréer des costumes ou des paysages, mais de faire comprendre un fonctionnement social disparu. Le lecteur est amené à suivre la logique des décisions, des hiérarchies et des interdépendances, plutôt qu'à consommer une simple aventure dépaysante. Cette orientation donne de la valeur à la reconstitution, car elle transforme le contexte en outil d'interprétation. Un roman sur les Mérovingiens gagne alors à expliquer les contraintes du rang, la place des femmes, les obligations de fidélité et le poids des successions. La qualité d'un tel texte dépend de sa capacité à articuler intrigue et intelligibilité historique. C'est ce qui le distingue d'une fiction purement décorative. Le passé n'y sert pas seulement de toile de fond, il produit les tensions narratives elles-mêmes. Le titre annonce déjà cette logique, en associant une question moderne à un univers ancien. En dernier lieu, un roman de conflit, de loyauté, de filiation et de légitimité. Au cœur d'un récit mérovingien, la question du divorce renvoie inévitablement à la légitimité des unions, des enfants et des héritages. Dans une société où la filiation fonde la continuité du pouvoir, rompre un mariage ne relève jamais d'une décision neutre. Le roman peut explorer les contradictions entre attachement personnel, nécessité politique et pression des groupes familiaux. Ces conflits de loyauté donnent au sujet sa portée dramatique, car ils obligent les personnages à arbitrer entre des obligations incompatibles. La légitimité, qu'elle soit conjugale, dynastique ou religieuse, devient alors le centre de gravité du récit. C est aussi ce qui rend le thème historiquement riche. Il permet d'observer comment une société construit l'ordre à partir de liens souvent instables. En mettant en scène des situations de rupture, l'autrice peut éclairer la fragilité des institutions du Haut Moyen-Âge et la violence discrète des négociations qui les soutiennent. Le roman prend ainsi valeur d'étude des mécanismes de transmission autant que de drame historique. En conclusion, Divorce à la mérovingienne cède adresse en priorité au lecteur qui apprécie le roman historique ancré dans une période précise et peu exploitée, avec un intérêt marqué pour les structures politiques, religieuses et familiales du Haut Moyen-Âge. Il conviendra aussi à ceux qui recherchent une fiction où l'intrigue ne se limite pas à l'action, mais sert à éclairer des mécanismes sociaux complexes, mariage comme alliance, divorce comme rupture d'ordre, église comme instance d'arbitrage et pouvoir royal comme système encore instable. Dans la catégorie des romans mérovingiens, le livre se distingue par son angle original, puisqu'il prend un sujet apparemment intime pour en faire un observatoire des rapports de force d'une époque fondatrice. Cette approche donne au récit une double utilité, elle offre un plaisir de lecture lié au suspense des relations humaines, tout en apportant une compréhension plus fine d'un moment historique, souvent réduit à des clichés. Pour qui aime les romans documentés, l'ouvrage promet surtout une immersion dans la logique interne du monde franc, là où les liens de parenté comptent autant que l'aise-bataille. Si vous souhaitez soutenir Marie-Hélène Texier, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.